Très bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le projet de loi pour reconstruire une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris est débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un texte largement critiqué qui veut accélérer les procédures. Présentation dans un instant.
Et nous entendrons ensuite le témoignage d'un journaliste qui a découvert que des centaines de personnalités françaises ont été fichées par la firme Monsanto, fichées en fonction de leur position sur les pesticides.
Le patron de Facebook sera à l'Élysée aujourd'hui. À 2 semaines des élections européennes, vous comprendrez que le scrutin est dans le viseur des hackers russe qui passe par le réseau social pour modifier l'opinion publique.
Et puis, Donald Trump menace l'ensemble des produits chinois pourraient être surtaxés dans les jours qui viennent. Le président américain emploie la manière forte alors que les négociations commerciales avec Pékin sont en cours.
Dans un gros quart d'heure, dans le billet politique après ce journal, Frédéric Seitz se penchera sur la campagne pour les européennes. Les poids lourds, dit-il, viennent à la rescousse. Mais d'abord, cette alerte du directeur du Musée national de Rio au Brésil, musée qui a brûlé il y a 9 mois et avec lui près de 20 millions d'œuvres qui constituaient sa collection. Au lendemain du drame, beaucoup avaient promis leur aide financière, des particuliers, entreprises et des pays. Mais rien ne vient, Anne Vigna.
9 mois après sa destruction, le Musée national de Rio appelle à nouveau à l'aide. Selon son directeur, Alexandre Kellner, le musée manque de tout, y compris des équipements pour conserver ce qui n'a pas été détruit.
Nous avons besoin d'une aide immédiate pour sauver ce qui reste. Nous avons besoin de containers, d'ordinateurs, d'étagères, plein de petites choses que nous ne pouvons pas acheter et c'est pour cela que nous demandons des dons.
Malgré l'émotion suscitée dans le monde entier par la perte irrémédiable de ce patrimoine, elle ne s'est pas traduite en aide concrète. La France fait partie des pays qui avaient promis d'aider, et ce, dès le lendemain du drame, explique encore son directeur.
En termes de dons publics et des entreprises, nous avons reçu jusqu'à présent près de 250 000 reales, moins de 50 000 euros. Concrètement, nous n'avons reçu aucune aide de la France. J'espère qu'après la tragédie de Notre-Dame de Paris, la société française nous aidera.
En juin, le directeur du musée national se rendra en France. Il dit avoir gardé le tweet du président français promettant d'aider le musée en septembre dernier.
La France interpellée donc après ses promesses faites en septembre dernier au Brésil. La France qui depuis se concentre en fait sur la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour laquelle au contraire les dons ont afflué. Moins d'un mois après l'incendie, la somme récoltée approcherait le 1 milliard d'euros. Pour organiser la rénovation, pour contrôler les fonds, un projet de loi sera débattu à partir de ce matin à l'Assemblée nationale par les députés. Y sont inscrits les conditions de la souscription nationale, les déductions fiscales, le contrôle des fonds et les dérogations à certaines règles d'urbanisme. Il s'agit là de l'article 9, vivement critiqué. Qui est-il écrit, Catherine Dutu ?
Permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance et de s'adapter ou de déroger aux règles de préservation du patrimoine, de commande publique, d'urbanisme, d'environnement. Le dispositif est exceptionnel, reconnaît Anne Bruniera, députée LREM du Rhône, rapporteure du projet de loi sur Notre-Dame. Mais c'est amplement justifié au vu de la taille du chantier et de son importance historique.
Pour que Notre-Dame soit rendue à ses amoureux et à ses touristes le plus vite possible, c'est une possibilité de déroger. La vraie difficulté à ce stade, c'est que nous n'avons pas encore diagnostiqué la cathédrale. Il faut que, bien sûr, les débris soient déblayés, que l'enquête ait lieu et que la cathédrale soit sécurisée.
Si l'on ignore encore dans quel état précis se trouve la cathédrale, pourquoi alors créer aussi rapidement une loi d'exception qui permet au gouvernement d'échapper aux besoins, aux règles patrimoniales jusque-là observées, y compris après les deux guerres mondiales? C'est la question que se pose Étienne Hamon, et ce professeur d'histoire de l'art du Moyen-Âge à l'Université de Lille à sa réponse.
Ça dénote une défiance envers les services de l'État qui sont en charge du patrimoine pour des raisons dont on peut craindre qu'elles soient un petit peu idéologiques. Ce qu'il ne faudrait pas contourner, c'est ces procédures de collégialité des instances administratives, scientifiques, des associations, des élus locaux, pour simplement respecter un calendrier médiatique et politique.
Étienne Hamon et plus d'un millier d'historiens, d'architectes et de conservateurs ont signé le mois dernier dans le Figaro une tribune appelant Emmanuel Macron à la plus grande prudence et certains de rappeler la formule de Viollet-le-Duc au XIXe siècle, la restauration peut être plus désastreuse pour un monument que les ravages des siècles.
Et rappelons que le président espère restaurer la cathédrale en 5 ans. Ce matin, c'est l'association Robin des Bois qui s'inquiète, son porte-parole affirme que les seuils de vigilance liés à la présence de plomb sur le site dites que ces seuils sont explosés. Il parle d'un scandale sanitaire majeur. Le projet de loi sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris, un projet trop politique. C'est un article à retrouver sur franceculture.fr. Et puisque l'on évoque les projets politiques, en voici un. La privatisation d'Aéroports de Paris. Elle est suspendue, Bercy l'a confirmé hier soir, suspendue le temps de la procédure engagée pour un éventuel référendum d'initiative partagée, un RIP. Hier après-midi, le Conseil constitutionnel a validé cette idée. La demande est portée par des parlementaires de tous bords. Le premier d'entre eux est le député Les Républicains Gilles Carrez, satisfait hier donc au micro de Stéphane Robert.
Une première étape vient d'être franchie. À présent, il va falloir recueillir l'adhésion, le soutien de 10% du corps électoral. Ça fait 4 700 000 signatures. Ça paraît beaucoup. Mais j'ai noté une très grande sensibilité des Français sur la privatisation des autoroutes. Ça s'est à nouveau exprimé lors du mouvement des Gilets jaunes. Et donc, les Français, ils considèrent que les questions d'infrastructures de transport qui sont au cœur de la vie quotidienne, ça relève plutôt de la collectivité publique. Et moi, je pense une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'une entreprise est gérée à majorité par des actionnaires publics qu'elle est mal gérée. Regardez de par le monde, tous les grands aéroports, aux États-Unis, en Allemagne, dans tous les pays développés, ils sont propriétés publiques, ils n'ont pas été cédés au privé. Il n'y a qu'une exception, c'est Heathrow. Et les Anglais commencent à le regretter.
Et vous avez les échos dans vos circonscriptions qui vous disent que...
Ah oui. Ça, vraiment, j'ai eu beaucoup de messages d'encouragement. Beaucoup de Français se rendent compte qu'on ne privatise pas des entreprises qui sont au cœur du service public.
J'ajoute que le ministère de l'Intérieur a désormais un mois pour lancer la pétition à propos de l'annulation de cette privatisation. Pour la signer, il faudra ensuite forcément décliner sur le site du ministère son identité. Cette mesure-là est soutenue par l'opposition et une majorité des professionnels du secteur. Les députés ont voté hier soir à l'unanimité l'interdiction de la pêche électrique dans les eaux territoriales françaises. La France anticipe ainsi l'interdiction générale prévue dans l'Union européenne d'ici à 2021. Ils sont journalistes, politiques et scientifiques, tous fichés secrètement par la firme américaine Monsanto. En tout cas, une enquête menée par France 2 et le quotidien Le Monde l'affirme. Il s'agirait de centaines de personnalités en France, en fonction de leur position sur les pesticides et notamment sur le glyphosate. Et Tristan Walex travaille pour France 2, il est l'auteur de cette enquête et il témoigne.
Ce qui apparaît le plus étonnant quand on regarde ces fichiers, c'est vraiment le fait qu'on a leur évaluation et leurs opinions sur des questions assez précises concernant le glyphosate et concernant Monsanto qui sont étudiées de manière extrêmement précise. Pour vous donner un ordre d'idée, on a un fichier par exemple avec 200 leaders d'opinion, alors des journalistes, des scientifiques, des hommes politiques, et à l'intérieur on a plusieurs thématiques, donc je vous dis les OGM, les pesticides, et sur chacune de ces thématiques, toutes ces personnes sont notées, c'est une petite notation qui va de 0 à 5, et ces personnes sont notées en fonction à la fois de leur crédibilité, de leur influence et de leur degré de soutien pour Monsanto. Pour vous donner un ordre d'idée, on a imprimé ces fichiers en caractère 12, donc vraiment en caractère normal, et ce fichier faisait 4 mètres de haut. Donc on a vraiment affaire à un listing gigantesque et des moyens qui vraisemblablement assez importants qui ont été utilisés.
Tristan Walex avec Frédéric Carbone. Emmanuel Macron entre pleinement en campagne pour les élections européennes. Le président français ne s'en est pas caché hier lors d'un sommet européen en Roumanie. Voulant, dit-il, mettre toute son énergie pour que le Rassemblement national ne soit pas en tête du scrutin. La présidente du RN, Marine Le Pen, estime que le chef de l'État est désormais un chef de campagne et devrait démissionner en cas de défaite aux européennes.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Emmanuel Macron recevra cet après-midi le patron de Facebook à l'Élysée.
Oui, pour la deuxième fois en un an seulement, Facebook est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde, l'une des applications exploitées aussi pour manipuler l'opinion lors d'élections ou de référendums notamment. On l'a vu aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ces dernières années. Eh bien, les élections européennes pourraient être touchées. Plusieurs sociétés de cybersécurité alertent. Des hackers et des entreprises de désinformation russes redoublent d'activité. Éric Biegala.
Les hackers russes affiliés au Kremlin s'en donnent à cœur joie depuis quelques semaines. Selon la société de cybersécurité FireEye, ils visent plus particulièrement les Européens ces derniers temps. Benjamin Reed dirige la section en charge de l'analyse de l'espionnage cyber chez FireEye.
FireEye a pu repérer plusieurs groupes russes occupés à cibler les gouvernements européens ces derniers 3-4 mois, les ministères de la Défense, ceux des Affaires étrangères et puis aussi, de manière significative, les groupes médiatiques.
D'autres officines russes déploient une énorme activité de propagande sur les réseaux sociaux pour leur part, notamment grâce aux bots, ces fameux robots à propagande. Georges Canidet est le directeur de Safeguard Cyber qui vient de publier un rapport sur la désinformation russe dans la campagne des européennes. Pour lui, même les comptes du président de la Commission européenne sont désormais compromis sur les réseaux sociaux.
Selon nos analyses, 12% des comptes qui suivent Jean-Claude Juncker sont des bots ou des comptes propageant de la désinformation ou des contenus malveillants.
Selon les chiffres donnés par l'entreprise Facebook elle-même, le premier des réseaux sociaux, il y avait quelque 91 millions de faux comptes Facebook actifs fin 2018 et l'entreprise de Mark Zuckerberg en supprimerait plus de 7 millions.
Facebook peut-il donc aider à contenir ce type de contenu ? En France, ce sont les propos haineux qui sont visés par les autorités. Maxime Tellier, du service multimédia de France Culture, vous avez travaillé à ce propos. Ces contenus haineux sont de plus en plus nombreux.
Un message sur 7 posté sur Facebook contient des propos haineux ou agressifs, d'après une étude menée entre janvier et mars en France par la société Netino. Un phénomène en hausse de 30% par rapport à la même période l'an passé. Cette évolution inquiétante a donc poussé le gouvernement à réagir. Emmanuel Macron l'a annoncé en février dernier devant le CRIF. Une loi doit être adoptée avant la fin de l'été, portée par la députée Laetitia Avia. Cette loi obligera les plateformes à retirer les propos haineux en 24 heures maximum, sous peine d'amende colossale, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial sur un an.
Alors, autre initiative, Maxime, et un rapport doit être remis à ce propos aujourd'hui au secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Il s'agit d'une mission Facebook lancée par le gouvernement.
Oui, des fonctionnaires français ont été accueillis par Facebook en Californie, qui leur a ouvert les portes de son siège pour leur montrer comment ils s'y prenaient afin de retirer les contenus haineux de sa plateforme. D'après Cédric O, Facebook a joué le jeu de la coopération avec la France dans le but d'arriver à une régulation que Mark Zuckerberg a appelée de ses voeux dans une tribune très remarquée publiée le 30 mars dernier dans de nombreux journaux du monde. Pour la firme californienne, l'occasion est trop belle de redorer son blason après les nombreux scandales qu'elle a connus en 2018 et depuis 2016, les élections américaines. La France, enfin, veut se poser en fer de lance de la régulation en Europe et dans le monde. Une séquence importante qui commence donc aujourd'hui et dont l'apogée aura lieu fin août avec le G7 organisé à Biarritz.
Merci Maxime Tellier pour ces précisions. L'actualité de ce vendredi matin, marquée aussi par cette nouvelle augmentation des droits de douane sur les produits chinois importés aux États-Unis. 200 millions de dollars de produits sont concernés. La taxe s'applique malgré la reprise des négociations entre Washington et Pékin, Grégory Phillips.
La discussion a duré une heure et demie, hier soir, dans ce club privé de Washington, pas très loin de la Maison-Blanche. Et les négociateurs américains et chinois sont convenus de se retrouver dès ce matin pour continuer à échanger. Le représentant américain au commerce, Lighthizer, et le secrétaire au trésor, Mnuchin, n'ont donc pas trouvé de compromis avec le vice-premier ministre, Liu Yi. Et comme prévu, les États-Unis vont donc augmenter les tarifs sur 200 milliards d'importations chinoises, qui désormais seront taxés à 25% au lieu de 10%. La mesure est entrée en vigueur à minuit, heure de Washington, comme l'avait promis Donald Trump quelques heures plus tôt.
J'ai reçu hier soir une très belle lettre du président Xi qui disait « Travaillons ensemble, voyons si nous pouvons aboutir », mais ils ont renégocié l'accord. On ne peut pas faire ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on augmente ce vendredi les taxes à 25% sur 200 milliards d'importations et ensuite on taxera encore 325 milliards de dollars à 25%. J'ai lancé la procédure cet après-midi.
Ce que prévoit le président américain, c'est donc de taxer à 25% la totalité des importations chinoises aux États-Unis. Tous les produits made in China deviendraient automatiquement beaucoup plus chers, à moins d'un accord aujourd'hui ou dans les jours qui viennent.
Et ce matin, la Chine annonce, elle répliquera à cette hausse des droits de douane américains. Les élections se poursuivent en Inde et France Culture y est allée pour le grand reportage de ce vendredi. À Uttar Pradesh, plus précisément dans le nord du pays où vivent 230 millions d'habitants, cet État aussi peuplé que le Brésil joue un rôle clé dans les législatives en ce moment puisque c'est lui qui envoie le plus grand nombre de députés au Parlement de New Delhi. Bonjour Mathilde Vallant.
Bonjour.
L'Uttar Pradesh est donc l'État qui pourrait freiner la réélection du Premier ministre indien Narendra Modi. C'est du moins ce dont rêve sur place l'opposition.
Oui, à Lucknow, dans la majestueuse capitale de cet État où l'on admire les immenses mausolées soufis, signe de la splendeur d'une cité longtemps dominée par les musulmans indiens, à Lucknow, effectivement, l'opposition se mobilise pour tenter de renverser les nationalistes hindous en poste à New Delhi. Il faut savoir qu'ici, en Uttar Pradesh aussi, c'est le BJP qui règne, puisqu'en 2017, le parti de Modi a remporté les régionales et a nommé à la tête du gouvernement d'Uttar Pradesh un religieux, le moine Yogi Adityanath, qui est le chef d'une secte hindouiste et d'une milice très active qui fait le coup de poing contre les musulmans notamment. Un personnage pour le moins sulfureux, comme l'explique la journaliste Niha Dikshit.
Je dois vous rappeler que Yogi Adityanath fait l'objet de 15 poursuites judiciaires. Trois accusations sont particulièrement graves. Incitation à la haine intercommunautaire, meurtre et incitation au meurtre. Mais ce qui est incroyable, c'est que quelques mois après son accession au pouvoir, il a demandé au gouvernement de l'Uttar Pradesh, qu'il dirige à présent, de lever ses accusations. Il essaye de se blanchir lui-même et ça, c'est très choquant.
On tentera donc un bilan politique de Yogi Adityanath et on verra comment s'organisent ses opposants.
Et on vous retrouve à partir de 17h ce soir sur France Culture, Mathilde Valland, pour ce grand reportage de la rédaction intitulé « Uttar Pradesh au cœur du nationalisme hindou ». Il a été réalisé par Annie Bro et sera suivi d'un débat présenté par Aurélie Kiefer. Après une accalmie en matinée et de belles éclaircies, la pluie arrivera par la façade ouest pour rejoindre la Lorraine en fin de journée. Comptez ce matin 12 degrés à Metz, 13 à Rennes, Lille, Paris et Besançon, 14 degrés sous la pluie bordelaise, 16 à Lyon, 20 degrés à Marseille.